Bonjour tout le monde et heureux à nouveau d'être là parmi vous. Alors j'ai une heure pour parler d'une thématique très complexe et pour faire l'économie de la parole, on va essayer d'aller directement droit au but. Parce que vous, en tant qu'étudiant et en tant que futur cadre, entrepreneur, vous n'avez que faire dans l'immédiat d'une longue histoire de la géopolitique. Mais ce qui vous intéresse davantage, c'est de voir quels sont les outils propres à la géopolitique qui pourraient vous être utiles, déjà en tant que citoyen, afin de mieux comprendre le positionnement de votre pays, je parle de votre pays au pluriel, parce qu'il y a différentes nationalités présentes ici, et de comprendre les mécaniques à l'œuvre au sein de la planète actuellement, et même de manière rétrospective par rapport aux événements passés. Donc on va commencer par la question, qu'est-ce que la géopolitique ? On pourrait répondre que c'est une discipline, bien que je pencherais plutôt vers une méthode. C'est une méthode par essence transdisciplinaire, car elle n'a pas de vocabulaire à elle propre, elle n'a pas de nomenclature à elle propre, mais elle emprunte à différentes disciplines, la géographie, la politologie, la sociologie, l'anthropologie, les différents outils et concepts qui l'intéressent afin de comprendre un certain nombre de phénomènes propres à la géopolitique. Parmi ces phénomènes, il y a le désir de comprendre le comportement de tel ou tel État. Par quoi est-il motivé? Par quoi est-il mu? Par quoi est-il porté? De comprendre un certain nombre de tensions qu'on qualifie de géopolitiques, de certains conflits et de tous les phénomènes en rapport avec la politique extérieure d'un État. Et donc, c'est au cas par cas, en fonction de chaque configuration, on va choisir les disciplines et les concepts que l'on va mobiliser pour comprendre tel phénomène. C'est-à-dire que quand on va analyser le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on ne va pas forcément utiliser le même grille de lecture que quand on va expliquer le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou en Irak, ou ailleurs dans le monde. Mais, pour chaque géopolitologue, il est indispensable d'avoir un minimum de culture générale dans chacune des principales disciplines utilisées en géopolitique. Et c'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Et la géopolitique peut nous permettre d'avoir deux grandes démarches. Une démarche descriptive, c'est-à-dire je veux expliquer pourquoi il y a tel conflit, quels sont les facteurs, les déterminants et les déterminismes qui rendaient ce conflit inéluctable. Là, on est dans la description. Et on peut en déduire une démarche prescriptive, c'est-à-dire de dire à un État, voilà comment tu dois te comporter en fonction de déterminismes. De ton territoire, de ta culture, de ton imaginaire, de ton peuple, de ton histoire, en fonction de tout cela, voilà la doctrine qui devrait être la tienne si tu veux défendre tes intérêts nationaux. Donc souvenez-vous, il y a toujours une approche prescriptive et une approche descriptive. Mais une fois que vous maîtrisez les outils indispensables, vous pouvez normalement faire les deux. Alors très rapidement, la géopolitique, comme d'autres disciplines, est née vers la fin du 19e, début du 20e siècle, à une époque où il était à la mode de voir des champs de connaissances qui ne relèvent pas du quantitatif, comme la chimie, la physique, etc., prétendre au statut de science. Donc on va voir la naissance de la sociologie, qui va également prétendre pouvoir quantifier les phénomènes des interactions à l'intérieur d'un groupe. Et donc on aura Durkheim, notamment sur la question du suicide, où il va adopter une approche statistique, quantitative. On aura l'anthropologie également, qui va prétendre au statut de science. La psychologie va naître à cette époque-là. Donc à cette époque, beaucoup de disciplines humaines vont prétendre au statut de scientificité, c'est-à-dire de vérité, dans la mentalité de l'époque. Et la géopolitique n'échappe pas à l'esprit du temps et s'intègre pleinement dans cette perspective-là et dans cette ambition-là. Et parmi les pères fondateurs de la géopolitique, on a globalement deux écoles que l'on va voir relativement dans le détail. On a l'école anglo-saxonne ou anglo-américaine, dont le père fondateur est John Alford Mackinder, qui est géographe de formation. Donc la géographie va être le point de départ de la géopolitique. Et de l'autre côté, du côté allemand, on a Frédéric Ratzel, qui est biologiste, qui a étudié la pharmacie, etc., qui va partir de la biologie pour expliquer le comportement des États dans le rapport que ces derniers entretiennent avec un territoire donné, avec leur territoire et puis avec les territoires voisins. Ce qui va donner deux approches totalement opposées. Alors on va commencer par Mackinder, à travers un article qu'il a publié en 1905. Donc en fait, Mackinder est britannique. Et donc en tant que britannique, et patriote britannique, il va penser le monde en fonction de son époque et des impératifs de l'Empire britannique. Étant porteur d'une culture maritime, je ne sais pas si tout le monde a assisté à la conférence que j'avais donnée sur Carl Schmitt, Terre et Mer. Alors, ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'Université Euromed dans la rubrique Live, où j'explique que, du point de vue de Carl Schmitt, qui est un grand juriste allemand et politologue, au fait, ce ne sont pas tout à fait des États qui possèdent des territoires, mais ce sont davantage des territoires qui possèdent des États. C'est-à-dire qu'au fait, toute l'histoire de la géopolitique, des guerres, des conflits, des rivalités, c'est l'histoire de l'affrontement entre la terre et la mer, en fait, entre deux éléments. Et que les États ne vont être que les ambassadeurs et les porte-paroles, soit de la mer, ça va être les empires maritimes, qui vont se fonder culturellement, philosophiquement, civilisationnellement sur la mer, et ça va donner ce qu'on appelle en anglais des « sea power », des thalassocraties en grec, c'est-à-dire des puissances fondées sur la mer, pas fondées uniquement militairement, par les flottes navales, etc., mais fondées à tous les niveaux, c'est-à-dire leur mentalité, leur rapport au monde, leur culture. Et de l'autre côté, on a des civilisations de la Terre qui vont être fondées à tous les niveaux sur un rapport terrestre, terrien, d'enracinement, de conservatisme, de verticalité, d'autorité. Et donc, c'est deux univers totalement différents. Et que dans l'histoire de l'humanité, à chaque époque, il y a eu des puissances qui vont défendre la terre et d'autres qui vont défendre la mer. Donc à l'époque de l'Antiquité grecque, on va avoir Athènes qui va représenter et incarner la mer, donc le commerce, l'ouverture maritime, le cosmopolitisme, la démocratie, tout cela est en rapport avec la mer. Et on aura Sparte qui va incarner la terre, l'enracinement, la verticalité, la virilité, l'héroïsme, etc. Plus tard, on aura Rome qui va incarner la terre et Carthage qui va incarner la mer. Et puis petit à petit, ça va se déplacer. Et on aura après Venise, la République de Gênes, la Hollande, l'Angleterre, et aujourd'hui c'est Washington qui représente la mer. Et donc quelque part aujourd'hui, quand on voit la guerre ou l'affrontement entre la Russie et les États-Unis qui se passe en Ukraine, car ce n'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais c'est la guerre des États-Unis contre la Russie en Ukraine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et bien au fait, derrière le voile des États, c'est la mer, c'est-à-dire le monde de la mer, M-E-R, incarné par les États-Unis, qui affrontent le monde de la Terre, incarné par la Russie et, dans un second rang, par la Chine. Et donc Mackinder propose cette carte en 1905 qui permet d'identifier trois catégories de territoires, une typologie de trois territoires dans le monde. Alors il y a ce qu'il appelle le pivot de la Terre, que vous voyez au centre, et qui correspond globalement à l'époque à l'Empire russe, qui est plus grand que la Russie actuelle, et ce qui englobe également l'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et une partie de l'Europe orientale. Alors pourquoi il le qualifie de pivot de la Terre? Pour différentes raisons très objectives. Parce que pour Mackinder, cet immense territoire de plus de 20 millions de kilomètres carrés, 22, 24, 26 millions de kilomètres carrés, est très faiblement peuplé en termes de densité, de nombre d'habitants par kilomètre carré, avec une infinité de richesses naturelles. Il y a tout dans cette région. Il y a du pétrole, il y a du gaz, du diamant, de l'or, du bois, ce que vous voulez. Et en plus, des ressources naturelles quasiment vierges, c'est-à-dire encore inexploitées par l'être humain. Et Mackinder part de l'idée que celui qui va contrôler le pivot de la Terre, et bien globalement, va contrôler la destinée du monde. Car il a un peu le réservoir de la Terre, et que toutes les rivalités géopolitiques du XXe siècle vont tourner autour du contrôle de cette région qu'il a appelée le pivot de la Terre. Pour la seconde catégorie, on a ce qu'on appelle le croissant intérieur, que vous voyez, le Inner Crescent. En fait, il part de l'Europe occidentale, en passant par la péninsule arabique et le monde arabe, puis le monde indien, et puis la partie extrême orientale, c'est-à-dire la partie côtière de la Chine, le littoral chinois, le Vietnam, le Japon et la Corée du Sud. Donc c'est toute la partie côtière de l'Eurasie. C'est-à-dire que quand vous voyez cette carte, arrêtez de raisonner en termes d'Europe et d'Asie. Imaginez qu'il s'agit d'un seul et même grand continent qui s'appelle l'Eurasie, qui part du Portugal jusqu'à l'Extrême-Orient. C'est un seul pavé continental. Et bien ce pavé continental, il a un littoral, une côte. Ce qui fait que l'Europe occidentale, le monde arabe, le monde indien et le monde chinois ne sont que la côte, la partie côtière de cet immense continent, de ce pavé continental. Donc c'est ce qu'il appelle le croissant intérieur. Et puis il y a le croissant extérieur, c'est le monde maritime. C'est globalement l'Angleterre et puis plus tardivement les États-Unis. C'est les territoires qui ne sont pas reliés directement à ce pavé continental, mais qui sont à l'extérieur de ce pavé continental. Et donc toute la géopolitique mondiale va graviter autour de qui va contrôler le croissant intérieur. Europe occidentale, monde arabe, monde indien et la partie littorale de la Chine. La puissance terrestre qui va incarner le pivot de la Terre, c'est-à-dire l'Empire russe à l'époque, va vouloir dominer le croissant intérieur, c'est-à-dire dominer l'Europe, dominer l'Inde, le monde arabe, la partie orientale de la Chine. Et le croissant extérieur, c'est-à-dire le monde maritime, va vouloir également dominer le croissant intérieur. Pourquoi ? Parce que le pavé continental, le pivot de la Terre, est enclavé, il n'a pas d'ouverture à la mer. Entre lui et la mer, il y a le croissant intérieur. Je rappelle, Europe occidentale, monde arabe, etc., Inde et Chine. Et donc, il va vouloir conquérir cette bande côtière pour accéder aux mers chaudes, pour accéder au commerce mondial et pour pouvoir se développer économiquement. Donc, il est obligé d'adopter une doctrine de désencerclement et de conquête de la partie côtière de ce pavé continental. Tandis que le monde maritime voit cela comme un danger vital. Parce que si jamais le pivot de la Terre arrive à dominer tout le pavé continental, eh bien, il peut affamer le croissant extérieur, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis, qui dépendent des ressources naturelles, alimentaires, énergétiques de ce grand pavé continental. Et donc toute la conflictualité mondiale va se situer au niveau de cette bande-là. Regardez toutes les guerres du XXe siècle. Elles n'ont pas lieu aux États-Unis et elles n'ont pas lieu sur le territoire russe. Elles ont lieu en Europe occidentale, première, deuxième guerre mondiale. Elles ont lieu dans le monde arabe, guerre en Irak, guerre d'Afghanistan, guerre en Libye. Elles ont lieu en Asie, en Extrême-Orient asiatique, guerre du Vietnam, la guerre de Corée, durant la guerre froide. Donc toutes les grandes guerres se situent dans cette faille tectonique, dans cette bande qui va de l'Europe jusqu'à la Chine en passant par le monde arabe et le monde indien, parce que c'est tout simplement l'objet de la dispute existentielle entre le monde maritime qui veut conquérir la profondeur du pavé continental et le pavé continental, le pivot de la Terre, qui veut sortir de l'étouffement dans lequel le monde maritime veut l'enfermer. Et donc naturellement, quand on a ces deux univers, l'univers de la Terre et de la mer, qui s'affrontent au niveau d'une bande, ça va être la bande de conflictualité. Et on a après Mackinder, un autre géopolitologue américain cette fois, Nicholas Pipeman, qui va reprendre la carte de Mackinder, mais qui va la développer davantage. Le Rimland, pour que vous puissiez bien le visualiser, ça c'est le croissant intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est là où on a les principaux conflits du XXe siècle, où on a toujours actuellement des conflits comme la guerre en Ukraine, et très récemment la guerre d'Afghanistan avant le départ des Américains. Et historiquement, là encore, cette partie du monde est importante parce qu'elle est le moteur, nous dit Mackinder et Spikeman, elle est le moteur de la civilisation humaine, de toute l'histoire humaine. Tous les grands achèvements de l'histoire humaine en termes culturels, civilisationnels, technologiques se sont faits là, ni dans le pivot de la Terre, ni dans le monde maritime, mais au niveau du Rimland. Déjà, les débuts de la civilisation humaine, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture, l'invention de l'État, de l'écriture, de toutes les grandes révolutions mentales, ont eu lieu à l'intérieur de cette bande, c'est-à-dire en Irak, dans l'actuel Irak, avec la civilisation sumérienne, chez les Phéniciens avec l'invention de l'agriculture, dans l'actuel Liban, et en Chine, pareil, l'agriculture a été à peu près découverte en même temps que dans l'actuel Irak, l'Égypte, des pharaons. Donc toutes les grandes civilisations sont nées à l'intérieur du Rimland. Tout simplement parce que, pour des raisons climatiques, le climat du Rimland est plutôt tempéré, contrairement au pivot de la Terre, qui correspond globalement à la Sibérie et à la partie steppique, c'est-à-dire structurée par des steppes de l'Asie centrale, qui n'est pas propice à une forte concentration de la population. Donc il y a des raisons climatiques. Et ces raisons climatiques peuvent s'expliquer également à travers un autre auteur américain, Jared Diamond, qui a tenté d'expliquer dans différents ouvrages pourquoi c'est l'Eurasie qui s'est développée le plus et le plus rapidement, contrairement à l'Afrique ou à l'Amérique du Sud ou à l'Australie. Alors il l'explique principalement par l'horizontalité de l'Eurasie. Un continent horizontal et large est plus prédisposé à avoir un développement accéléré qu'un continent vertical, par exemple comme l'Afrique. Pourquoi ? Parce que, imaginons l'Eurasie, si on prend une carte climatique, par exemple. Donc là, on a une carte climatique. Vous voyez bien que les climats sont répartis de manière horizontale. pour des raisons cosmiques de position de la Terre, rotation autour du Soleil, c'est horizontal. Donc imaginons que quelqu'un, par exemple, au niveau de l'Europe, découvre la culture du blé. Quelqu'un qui va inventer l'agriculture. Il a découvert que quand il sème une graine dans des conditions données, bah, ça pousse et ça donne des graines de blé. Et bah, par imitation, le village voisin va faire la même chose, puis le village voisin va faire la même chose, et ça va se diffuser horizontalement, cette culture du blé. Pourquoi ? Parce que le blé est propre à un climat donné. Si vous plantez du blé dans le Grand Sahara, ça ne va rien donner. Si vous le plantez dans le Sahel, ça ne va rien donner. Il y a d'autres cultures qui vont se développer là-bas, mais pas tel type de blé ou d'orge ou d'autres choses. Et donc le blé va suivre la bande climatique. Et donc il va aller même de l'Europe jusqu'à la Chine, parce qu'on voit qu'il y a un continuum climatique, toute la bande verte. Mais il ne pourra pas aller au sud, car au sud, il y a un autre climat qui va constituer une barrière à la diffusion de cette innovation du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Et donc toutes les cultures, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, les espèces qui vont pouvoir proliférer, vont toutes proliférer horizontalement. Et donc déjà, l'Eurasie est première dans l'invention de l'agriculture. L'agriculture a rendu possible l'État. L'État combiné à l'agriculture avec la gestion des stocks va permettre à l'humanité d'inventer la comptabilité. Qui dit comptabilité dit écriture. Et donc on a une dynamique civilisationnelle qui s'enclenche. Ce qui n'est pas le cas de l'Amérique du Sud, même si avec les Mayas, les Aztèques, on aura une certaine dynamique, mais qui va très rapidement atteindre ses limites et stagner dans le temps. Mais le climat est important de ce point de vue, parce qu'il permet de comprendre que les dynamiques civilisationnelles et culturelles sont en partie déterminées par le climat. Et donc le Rhineland est une bande à climat tempéré, avec une profondeur continentale qui lui permet d'avoir accès à des ressources naturelles, mais en même temps avec une ouverture maritime qui lui permet des flux commerciaux, de l'échange, de l'enrichissement, du développement, etc. Et comme toutes les sociétés marchandes sont par nature démocratiques, parce qu'on est dans l'intérêt individuel, dans l'enrichissement, et bien toutes les sociétés qui vont se fonder sur la mer et l'ouverture à la mer vont adopter un mode d'organisation politique qui est démocratique, mais oligarchique. C'est-à-dire la démocratie, oui, mais juste entre une caste de commerçants riches et de nobles. Le peuple n'est pas intégré dans ce schéma démocratique. Par contre, toutes les sociétés terrestres, telluriques, qui n'ont pas d'ouverture à la mer, sont, de par leur mode de vie agricole, dans une logique d'éternel recommencement, parce que la temporalité, le rapport au temps d'un agriculteur, c'est un rapport au temps cyclique. Comme je dis à chaque fois, le rêve de tout agriculteur est que chaque saison vienne au même moment chaque année. Donc c'est l'éternel recommencement du même. Et donc ça donne une forme de conception politique verrouillée qui se renouvelle sur elle-même et donc assez autoritaire, enracinée, et puis les paysages sont les mêmes. Donc quand on a une montagne devant soi, au fait c'est la même montagne que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père voyaient devant lui. Donc il y a cette idée de fixité, d'éternel recommencement. Par contre, chez les sociétés maritimes, on est dans l'éternel nouveau, on est dans les flux maritimes, dans les détroits, dans de nouvelles contrées, de nouvelles cultures. Il y a des commerçants qui viennent d'Inde, d'Athènes, des commerçants qui viennent d'Égypte, et puis les Grecs qui vont aller ailleurs, dans l'actuelle Marseille, qui vont fonder comme colonie. Donc c'est l'éternel nouveau, l'éternel cosmopolitisme, etc. Et donc ça donne deux cultures politiques totalement différentes. C'est pour cela que quand aujourd'hui l'Occident reproche à la Chine de ne pas être démocratique, c'est un déni de toute cette réalité-là, plurimillénaire, que la géopolitique ne peut pas ignorer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas projeter un mode d'organisation politique qui est propre à une réalité géographique, historique, climatique, civilisationnelle donnée, et exiger que l'on le greffe sur une réalité qui a un tout autre fondement à tous les niveaux, territorial, culturel, historique, civilisationnel. Et donc quand on est géopolitologue, on ne peut pas être idéologue. C'est-à-dire on n'est pas dans l'universalisme, mais on est dans le relativisme culturel. On comprend que chaque culture a ses spécificités, des enracinements qui lui sont propres, et qu'il est le produit d'un certain nombre de déterminismes qui ne sont pas les miens. Et donc on ne peut même pas dire qu'il y a une hiérarchie des cultures. Mais il y a une différence fondamentale des cultures du point de vue de la géopolitique. Donc maintenant on va aller à la carte de Nicolas Spykman. Donc là, on voit ce qui est en noir en bas, c'est une partie du Rimland. Et ce qui est en noir en haut, c'est une partie de ce que Spikeman va appeler le Heartland, le cœur de la Terre. C'est la même chose que le pivot de la Terre chez Mackinder. C'est juste la domination qui va changer. On voit des flèches de part et d'autre qui traduisent des dynamiques d'expansion. C'est-à-dire que le Rimland cherche à repousser le Heartland dans les profondeurs continentales, tandis que le Heartland cherche à s'étendre afin d'adopter une politique de désencerclement pour accéder aux mers chaudes. Alors, cette politique des mers chaudes, d'accès aux mers chaudes, permet d'expliquer aujourd'hui un certain nombre de conflits. Prenons la question de l'Ukraine. Déjà, si on remonte bien avant l'Union soviétique, à l'époque de l'Empire russe, toute la politique extérieure de l'Empire russe, bien avant que la géopolitique n'existe en tant que discipline, je veux dire, la géopolitique n'a pas inventé la géopolitique. Les mécanismes de la géopolitique existaient avant. La discipline n'a fait que les théoriser et leur donner un caractère conceptuel. C'est comme la médecine n'a pas inventé les microbes, elle n'a pas créé les microbes. Elle les a découverts, elle a appris comment les traiter, mais les microbes existaient avant la médecine. De même que les objets tombaient avant que la physique ne découvre la gravité. Donc la géopolitique n'a fait que formaliser un certain nombre de déterminismes. Donc l'Empire russe à l'époque incarnait le pivot de la Terre ou le Heartland, pour parler comme Nicolas Spikeman. Et la Russie, qui voulait se développer et rattraper son retard par rapport au monde occidental, comprenait que l'unique moyen qu'elle avait, c'est d'accéder aux mers chaudes, c'est-à-dire au commerce mondial, l'océan Pacifique, l'Atlantique, etc. Et elle n'avait que deux voies. La première voie, c'est la voie du Nord, c'est de la mer Baltique, en passant par la mer du Nord pour accéder à l'Atlantique, ce qu'elle a commencé par faire sous le règne de Pierre le Grand, mais c'est une voie qui est relativement hermétique, tout simplement parce que les Britanniques contrôlent cette partie de la mer et que la Russie ne peut pas se projeter sérieusement dans cette région du monde-là. Reste la Méditerranée, qui permet de contourner l'hégémonie britannique en partie et d'accéder à l'Atlantique. Mais pour que la Russie puisse prendre pied dans la Méditerranée, elle doit contrôler l'actuelle Crimée, la péninsule de Crimée en Ukraine. Or, il se trouve qu'à l'époque, l'Empire ottoman contrôlait cette région-là. Et donc, inéluctablement, une guerre entre l'Empire russe et l'Empire ottoman allait arriver, et elle est arrivée à plusieurs reprises. Dans un premier temps, au profit des Russes, qui ont fini par conquérir la Crimée, l'intégralité de l'Ukraine actuelle, mais par la suite, cet élan a été freiné par l'intervention des Anglais et des Français durant la guerre de Crimée, qui a mis stop à l'expansionnisme de l'Empire russe, qui avait pour projet de conquérir Constantinople, c'est-à-dire Istanbul, afin de pérenniser et d'inscrire dans la durée la présence de la Russie en Méditerranée. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a perdu l'Ukraine et la Crimée avec, et s'est retrouvée dans un nouveau schéma d'enclavement, d'encerclement, avec une incapacité à garder une présence en Méditerranée. La Crimée, qui abritait une base navale russe, a permis à la Russie, après 1991, de garder une base navale, mais qui était louée par l'Ukraine à la Russie. Or, les révolutions colorées, la révolution orange qui a eu lieu en Ukraine en 2003, puis le mouvement Maïdan en 2014, ont fait comprendre à la Russie que les Américains étaient en train d'agiter une partie de la population ukrainienne afin de mettre en place un gouvernement pro-occidental, afin d'éjecter définitivement la Russie de la Crimée et de l'empêcher de pouvoir avoir un pied en Méditerranée et donc d'avoir une présence géopolitique importante à l'échelle mondiale. Ce qui a amené la Russie à intervenir militairement et de manière directe en Crimée en 2014-2015 et puis actuellement le conflit que l'on connaît. Donc si on veut expliquer le conflit comme le font les médias et les journalistes, bien on a les méchants et les gentils. On a la gentille Ukraine, on a la méchante Russie, donc c'est le bien contre le mal, une lecture manichéenne. Mais si on fait de la géopolitique, il n'y a ni méchant ni gentil. Il y a des impératifs stratégiques. C'est que les Américains, quand ils tentent de provoquer l'effondrement de la Russie, ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Parce que c'est ce que la géopolitique exige. C'est la terre contre la mer et il n'y a qu'un seul qui pourra survivre. Et donc du point de vue américain, si j'avais été citoyen américain ou géopolitologue américain, j'aurais probablement encouragé effectivement d'obtenir la décomposition de la Russie en plusieurs petits états, etc. Du côté de la Russie, quand elle envahit l'Ukraine ou la Crimée en 2014-2015, c'est pas par méchanceté. C'est une question de survie pour la Russie que de garder la Crimée à tout prix. Et d'ailleurs, on peut lire ça même dans les écrits géopolitiques américains, notamment chez Zbigniew Brzezinski, qui est un grand théoricien américain, qui a écrit un livre en 97 je crois, qui s'appelle « Le Grand Échiquier », où il conseille en réalité les États-Unis dans la manière qu'il devait, avec laquelle il devait traiter la Russie. Et il disait qu'il fallait tout faire pour profiter de l'affaiblissement de la Russie des années 90 pour arracher définitivement l'Ukraine à la Russie. Parce que la Russie sans l'Ukraine va voir naturellement son centre de gravité basculer de la dimension européenne vers la dimension asiatique. Et dans l'imaginaire de Brzezinski, asiatique veut dire sous-développé, archaïque, voilà, absence de développement technologique, etc. Et donc le meilleur moyen de tuer toute possibilité de la Russie de redevenir une puissance européenne, c'est de lui arracher l'Ukraine. Ça, c'est en 97. Donc quand on voit plus tard, en 2003, puis en 2014, des révolutions en Ukraine, que la diplomatie américaine était même présente sur le terrain, à distribuer des croissants et des petits pains aux manifestants, on comprend bien ce qui se trame à ce niveau-là, sur un plan purement géopolitique. Quand on fait de la géopolitique, il y a deux dimensions à prendre en compte. Par rapport aux disciplines qu'on va utiliser, comme j'ai dit, l'histoire, la sociologie, la géographie, etc. Je vais utiliser deux termes compliqués, mais je vais les expliquer, ça va être très clair. Il y a des disciplines qu'on va utiliser de manière diachronique, D-I-A chronique. Que veut dire diachronique? Dia veut dire à travers, comme diapositive, dia. Et chronos veut dire le temps, donc à travers le temps. C'est ce que veut dire diachronique. C'est-à-dire, par exemple, si je fais de l'histoire, l'histoire d'un pays, par exemple au XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, XXe, XXIe, eh ben, j'adopte une méthode diachronique. Je suis l'évolution de ce pays à travers le temps. C'est-à-dire je prends en compte le changement, les évolutions, les grands événements, les différents phénomènes dans le temps. Là, on peut l'utiliser en géopolitique, notamment par rapport à l'histoire, par rapport à l'évolution démographique d'un pays, par rapport à l'évolution économique d'un pays. Je vais suivre le PIB d'un pays dans le temps, le taux de croissance, l'inflation, le prix des matières premières dans le temps. Ça, c'est une approche diachronique. Et là, son importance, mais elle n'est pas la seule. L'autre approche, c'est l'approche synchronique. Synchronique, c'est-à-dire en même temps. Que veut dire en même temps? Prenons, parce que ces deux termes nous viennent de la linguistique. Prenons l'exemple de la langue avant de revenir à la géopolitique. Quand on prend une langue, par exemple le français, si je veux étudier le français du point de vue diachronique, c'est-à-dire à travers le temps, je vais voir comment le français a évolué entre le 15e et le 20e siècle. Je vais voir le vocabulaire, comment il a changé, la conjugaison, comment on l'a changé. Effectivement, quand on lit un texte de Rabelais ou d'autres, si on le lit dans l'écriture originelle, c'est assez compliqué, c'est, on dirait une autre langue. C'est-à-dire que la langue change dans le temps. Mais si je veux connaître la langue française aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le français est français? Et qu'est-ce que je dois respecter comme règle pour que je parle, pour que je puisse parler français? J'adopte une approche synchronique, hors du temps, c'est-à-dire instantanée. C'est-à-dire, si je veux définir synchroniquement le français, je vais le définir à travers toutes les règles de conjugaison, de grammaire, de syntaxe, d'orthographe qui font le français maintenant. Donc j'élimine le temps, c'est-à-dire le changement d'évolution, je vois maintenant l'ensemble des règles, des interdépendances, parce que toutes les règles sont interdépendantes bien entendu, qui font que le français est français. Et si je ne respecte pas cette structure, eh bien je ne parle plus français, ou je parle mal français, avec des fautes et des erreurs. Chaque langue a sa structure. Alors dans le temps, elle change, ça pourrait nous intéresser si on veut voir comment elle a changé, mais si je veux connaître sa structure profonde, maintenant, j'adopte une approche synchronique. J'élimine le temps, le changement, et je vois maintenant toutes les règles qui font d'une langue. Alors, si on en vient à la géopolitique, si je veux comprendre un conflit, des tensions, ou n'importe quel rapport entre deux États, comme j'ai dit, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie, l'Ukraine, etc., je dois adopter les deux. C'est-à-dire, je dois avoir une lecture diachronique de l'histoire des relations entre ces deux pays, ce que j'ai fait tout à l'heure, l'Union soviétique, l'Empire russe, remonter le plus loin possible pour comprendre les racines diachroniques qui permettent d'éclairer un peu ces conflits. Je peux le faire même en démographie, d'accord ? Que la Russie est en déclin démographique depuis les années 70-80 et que toute l'émergence de l'idéologie, de cette idée russe dont on parle aujourd'hui en Russie, n'est qu'une tentative de compenser le déclin démographique de la Russie par la conquête de nouveaux Russes. C'est-à-dire en conquérant des territoires en Ukraine et en donnant la nationalité russe à ces Ukrainiens, et bien en fait on crée des Russes à partir de rien, plutôt que de les mettre au monde par la fécondité, par la naissance. Là, c'est une lecture diachronique. Par contre, si je veux avoir une lecture synchronique, Je ne vais pas remonter à l'histoire. Je vais voir quelles sont les valeurs structurantes les plus profondes de la mentalité russe. Et celles-là ne changent pas, peu importe les époques. C'est ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire le rapport au monde, les valeurs structurantes, c'est-à-dire toutes les valeurs qui fondent notre rapport en tant que peuple à la mort, à la vie, à l'espace, au paysage, à la vérité, etc. Et je vais voir la même chose du côté ukrainien. Quelle est la structure mentale du peuple ukrainien, indépendamment de orthodoxe ou catholique, de l'Ouest ou de l'Est, au 19e ou au 20e. Pourquoi ? Pas parce qu'on part de l'idée que le temps n'est pas important, mais parce qu'on considère que les mentalités, les valeurs profondes qui font des mentalités collectives, ne changent quasiment pas dans le temps. Elles changent dans un autre horizon temporel. C'est un horizon de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Par contre, à la surface, c'est-à-dire la nature du régime politique, le système économique, ça change, peut changer rapidement. En une révolution, un régime politique peut changer, un régime économique peut changer. On a vu comment la révolution bolchevique a changé les deux en l'espace de quelques années. C'est-à-dire, on est passé d'un empire russe orthodoxe à un empire communiste athée. On est passé d'une économie proto-capitaliste qui est en train d'émerger rapidement une économie collectiviste, socialiste, communiste. Ça change rapidement, ce qui se passe à la surface. Mais la mentalité profonde du peuple russe n'a pas changé. Elle est la même à l'époque de Pierre le Grand, à l'époque de Brejnev ou à l'époque de Poutine. C'est les invariants, comme dans les langues. Oui, la langue, la structure de la langue change dans le temps, mais au cœur de ces structures, il y a des noyaux durs qu'on appelle des invariants. Ce qui fait que même si vous lisez des textes en français, dans le français médiéval, le vocabulaire n'est pas le même, la prononciation n'est pas la même, mais vous sentez que c'est du français. Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Une forme de musicalité, une forme de structure, de noyau dur qui ne change pas. Au niveau des mentalités des peuples, c'est globalement la même chose. Et donc, il faut être outillé des deux. Si on n'est que dans l'approche diachronique de l'événementiel dans le temps, on est dans le commentaire et l'analyse journalistique. Si on n'est que dans la dimension synchronique de la pure structure toute seule, on est anthropologue ou sociologue. Par contre, quand on est géopolitologue, il faut combiner les deux. C'est un peu comme je donne l'exemple, pour parler de la géopolitique, l'exemple de l'ophtalmo. Quand vous allez voir l'ophtalmologiste pour faire des lunettes, il vous met un truc métallique, un cadre métallique, puis il met la première lentille, il vous dit est-ce que vous voyez mieux ? Non, il ajoute une deuxième. Puis il ajoute une troisième. Si la troisième fait empirer votre vue, il l'enlève et il met une autre. En fait, il combine au cas par cas, c'est-à-dire par patient, pour trouver les bonnes combinaisons à chaque fois. Et donc pareil, le dosage de diachronique et de synchronique va changer en fonction du conflit. Je donne un autre exemple. La dimension, par exemple, ethnique ou ethnoculturelle, elle n'a pas le même poids dans toutes les régions du monde quand on fait de la géopolitique. Si je parle, par exemple, des tensions, par exemple, entre le Royaume-Uni, par exemple, et la France à une époque donnée, la dimension ethnique ne va mettre d'aucune aide. Même la dimension linguistique ne va mettre d'aucune aide. Même religieux, pour retrouver un poids du religieux comme facteur explicatif des tensions géopolitiques entre les États en Europe, il faut remonter au moins au XVIe siècle, avec les guerres des religions, la guerre de 30 ans, etc. Mais si je veux l'expliquer au XIXe ou au XXe, globalement, je peux éliminer la dimension ethnique et la dimension linguistique. Par contre, je vais invoquer d'autres dimensions. Du point de vue géopolitique, je vais voir la nature du territoire. C'est-à-dire que l'Angleterre est un pays insulaire, donc il fonde sa puissance sur le contrôle des mers, des détroits, etc. La France est une puissance continentale, mais elle a une ouverture maritime. Donc au fait, elle va prétendre à la consolidation continentale, on l'a vu avec Napoléon, l'épopée napoléonienne, c'était une tentative de conquérir toute l'Europe, c'est-à-dire de devenir une puissance continentale, mais en même temps, la France pourra, quand le contexte le permettra, tenter une projection maritime. C'est ce qu'elle va faire avec la colonisation, aller conquérir des territoires en Afrique un peu partout. Donc tous les pays qui sont au niveau du Rhineland, en fait, ils ont plus de liberté en termes de destinée géopolitique. Elles peuvent choisir la mer comme elles peuvent choisir la terre. Et d'ailleurs, l'histoire de ces pays-là, c'est toujours une histoire de balançoire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, des parenthèses d'ouverture à la mer, puis des parenthèses de repli continental. Et donc ça va à tour de rôle sur la longue durée. Par contre, des pays comme l'Angleterre, étant une île, Elles ont une destinée maritime. Elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas géographiquement la possibilité de penser la profondeur continentale. Ça n'a pas structuré leur imaginaire, car c'est une île. Donc ils ne peuvent pas penser ce que veut dire avoir une profondeur de plusieurs millions de kilomètres carrés. Par contre, ils peuvent comprendre l'idée de contrôler le littoral de plusieurs territoires, d'aller conquérir la partie orientale de l'Afrique, d'aller conquérir la partie orientale de la Chine, mais sans presque jamais se projeter à l'intérieur du continent. Parce que dans la mentalité anglaise, on rentre ça en géopolitique, tout territoire est divisé en deux catégories. Il y a le foreland, c'est la partie côtière, en fait c'est la partie utile, là où il y a le commerce, les comptoirs, les grandes villes, la concentration démographique, les flux, l'échange. Et puis il y a le hinterland, c'est-à-dire l'état intérieur, la profondeur continentale, à peu près peuplée de sauvages, du point de vue des Anglais. C'est-à-dire, à la limite, si on n'y va pas, c'est pas grave. Je veux dire, tant qu'on contrôle les côtes, ça nous va parfaitement. D'ailleurs, on peut le voir même avec un pays qui nous a en partie colonisé, le Portugal. Lorsque le Portugal était un grand empire maritime, et bien, au Maroc, il ne contrôlait que le foreland, c'est-à-dire la partie côtière. C'était des comptoirs commerciaux qu'ils défendaient en fondant des forteresses autour, mais l'intérieur des territoires, ils ne le contrôlaient jamais. Et la seule fois où ils ont tenté de le faire, et ben l'Empire du Portugal a disparu. C'est la bataille des Trois Rois, à la Catoa de Mahazen. En une bataille, l'Empire portugais a disparu parce qu'il a voulu conquérir l'intérieur du Maroc en s'aventurant dans des territoires qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et en général, c'est payé cash. Donc en fait, on a cette ambivalence au niveau des États qui sont au niveau du littoral. Donc on peut expliquer, en Europe, on peut utiliser cette variable géographique. On peut utiliser la variable économique, on peut utiliser la variable politique, mais la variable ethnique ou ethnoculturelle devient secondaire. Par contre, restons toujours en Europe, avant d'aller vers l'Afrique ou d'autres régions du monde, quand on parle de l'Allemagne, ça devient un peu plus compliqué. Pour une raison très simple, c'est que l'Allemagne se voyait comme étant homogène ethniquement. Effectivement, l'Allemagne n'est pas un État, n'a jamais été un État pluriethnique. Même si, quand elle était un empire, il intégrait d'autres populations qui n'étaient pas germaniques, culturellement parlant. Mais globalement, il y avait toujours cette idée, pas de pureté au début, mais cette idée d'homogénéité ethnique ou ethnoculturelle du peuple allemand. D'ailleurs, c'est ce qui va rendre possible l'État allemand, car l'Allemagne n'existait pas avant le XIXe siècle. Il y avait le Saint-Empire romain germanique à une époque, qui était une forme de bricolage politique entre différentes principautés et différents royaumes, le royaume de Bavière, etc. Mais l'État allemand va être fondé durant l'époque où Bismarck, Otto von Bismarck, était chancelier, et il va le fonder en partant d'une lecture proposée par Frédéric List, selon laquelle il fallait commencer par une union douanière entre les différents États allemands, afin que les gens puissent voyager librement et les chemins de fer, ce qu'il va appeler le Zollverein, afin que les peuples germaniques, culturellement parlant, puissent voyager entre les différents États, Bavière, Saxe, etc. Et en voyageant entre les différents États allemands, ils vont finir par prendre conscience qu'en fait, ils appartiennent à une même culture, à un même groupe culturel et civilisationnel. Et ça va être le tremplin qui va permettre de fonder un État allemand, c'est-à-dire une unité politique allemande. Et donc l'Allemagne, dans les rapports qu'elle va entretenir avec le reste des États européens, elle va l'entretenir en partie à travers le prisme de l'homogénéité ethnique. D'ailleurs, même au cœur de l'Union européenne aujourd'hui, il y a cette idée de faire de l'Europe une forme de fédération, mais qui ne sera pas constituée d'États souverains, mais d'euro-régions, c'est-à-dire de régions européennes. Mais pour fonder ces régions européennes, eh bien, il faudra charcuter les États européens. Donc on aura l'euro-région basque qui va prendre un peu du territoire espagnol, un peu du territoire français. Puis on aura une région flamande qui va prendre un peu des Pays-Bas, un peu de la Belgique. Et donc on va faire éclater les États-nations dans leurs frontières politiques pour les remodeler sous la forme d'euro-région sur une base ethnoculturelle. C'est-à-dire les Basques, on va les mettre dans une région, les Catalans dans une région, etc. Les Bretons dans une région. Et quand on voit la carte proposée par les Allemands, au niveau des différentes institutions européennes, comme le Parlement européen, vous voyez la carte des euro-régions, vous voyez que tous les États d'Europe ont été remodelés, charcutés. Il y a un État qui est resté intact, c'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'elle est homogène ethniquement. Et donc ça peut être également un instrument de puissance utilisé par l'Allemagne au cœur même de l'Union européenne pour affaiblir les partenaires et renforcer sa position sur une base ethnique. Et même durant la Deuxième Guerre mondiale, avec le nazisme, ça va être l'exacerbation de cette dimension ethnique. Par contre, quand on va dans certaines régions d'Afrique, pas toutes les régions d'Afrique, je cite toujours l'exemple du Nigeria, là on a une bombe à retardement, enfin une bombe à retardement, c'est une bombe qui est explosée à plusieurs reprises, puisqu'on a la combinaison de deux choses, que cette combinaison est contre nature dans l'histoire de cette région. On a d'un côté une réalité d'appartenance ethnique extrêmement forte, ce qui est tout à fait naturel, un individu s'identifie en partant de son ethnie. Une ethnie, c'est quoi? C'est un groupe de population assez important qui part de l'idée qu'il a un ancêtre commun ou des ancêtres communs, et dont le marqueur d'unité, le marqueur principalement linguistique, parce qu'un groupe ethnique, un seul et même groupe ethnique, peut être divisé en deux appartenances religieuses. Et d'ailleurs, les groupes ethniques se différencient entre eux par des signes ostentatoires, comme des tatouages, comme des cicatrices esthétiques qu'ils font pour se démarquer les uns des autres. Alors, dans des régions où le marqueur d'appartenance est principalement ethnique, venir greffer la démocratie du one man, one vote, sur cette réalité ethnique, ne peut produire qu'une catastrophe. Tout simplement parce qu'à l'intérieur des frontières politiques du Nigeria, les différents groupes ethniques n'ont pas le même poids démographique. Il y a des ethnies qui pèsent 20-30% de la population, d'autres qui pèsent 5% de la population. Et bien, quand il y aura les élections, les gens, la majorité des gens ne va pas voter en fonction du programme politique de tel ou tel candidat, mais ils vont voter principalement selon l'appartenance ethnique de tel ou tel candidat. Donc si moi j'appartiens à l'ethnie Hausa ou Peul, qui sont les deux ethnies musulmanes majoritaires au nord du Nigeria, et bien, je vais voter pour le candidat Hausa. Je ne vais jamais voter pour un candidat de l'ethnie Yoruba au sud, en plus chrétienne, etc. Et inversement, l'électeur chrétien du sud de l'ethnie Yoruba ne va jamais voter pour un Hausa ou pour un Peul. Et donc, en fait, on aura des résultats électoraux qui vont être le reflet mathématique du rapport de force démographique entre les ethnies. Et donc, globalement, on aura l'ethnie qui pèse le plus lourd démographiquement va presque systématiquement gagner les élections. Et l'ethnie qui est minoritaire démographiquement jamais ne va accéder au levier du pouvoir. Et donc l'ethnie qui prend le pouvoir, à travers son candidat, va orienter toutes les politiques publiques de développement, d'aide, etc., dans les territoires de son ethnie, en appauvrissant celle des ethnies périphériques mineures, et puis quand c'est l'autre ethnie majoritaire, parce que le Nigeria, c'est globalement 3-4 groupes ethniques majoritaires, 2 musulmans au nord, 2 chrétiens au sud, et même le président du Nigeria, c'est tantôt un président chrétien, comme Goodluck durant les années 2010, tantôt un président musulman, comme c'est le cas aujourd'hui avec Buhari, et puis ça pourra rechanger et redevenir chrétien. Mais il se trouve qu'il y a une ethnie au nord-est du Nigeria, dans le pourtour du lac Tchad, qui est de l'ethnie Kanuri, qui pèse entre 5 et 8% de la population nigériane. Cette ethnie est une ethnie qui est minoritaire, qui habite l'état du Nigeria le plus pauvre. On peut le voir selon toutes les statistiques, elle n'est pas pauvre parce qu'elle n'a pas de ressources, c'est le contraire, elle a une ouverture sur le lac Tchad, donc il y a toute une activité de la pêche, il y a de l'eau pour l'agriculture et tout. Mais elle est la plus pauvre parce que vu son poids démographique, jamais elle n'aura le pouvoir au Nigeria, et elle ne peut pas compter sur l'ethnie Hausa ou Peul, qui est musulmane comme elle, parce que le premier principe de solidarité n'est pas la religion, mais c'est l'appartenance ethnique. La religion vient en second, pour renforcer le lien ethnique, mais ne remplace pas le lien ethnique. Donc que font les Kanuri? Ils prennent les armes, déjà militairement, et puis ils prennent les armes religieusement. C'est-à-dire ils vont puiser dans l'islam le plus radical le logiciel religieux qui va leur permettre de justifier leur révolte contre les autres musulmans déjà, les Hausa et les Peul. Et c'est là la naissance de Boko Haram. Quand Boko Haram est né au Nigeria, 90% des soldats de Boko Haram, c'est des Kanuri. Les autres, c'est des mercenaires qu'ils recrutent à gauche à droite. Donc en fait, ce n'est pas une révolte religieuse, comme on le présente, l'islamisme radical, etc., comme on voit dans le commentaire journalistique. Mais c'est une révolte ethnique drapée dans un accoutrement religieux. Donc là, le religieux ou l'islam radical devient l'alibi qui permet aux calories de donner une justification à leur révolte qui est principalement ethnique. Et les premiers attentats terroristes et massacres qui vont être commis par les calories, ça ne va pas être contre les chrétiens du Sud, mais ça va être contre les autres musulmans du Nord, contre les Hafsa, contre les Peuls, et puis par la suite à Abuja, la capitale, et un peu plus au sud, au niveau des chrétiens. Et donc, si on veut faire la géopolitique du Nigeria, mais qu'on n'intègre pas cette dimension ethnoculturelle, on va avoir une lecture caricaturale, uniquement religieuse, et qui va nous donner un diagnostic qui est totalement faux, et qui ne permettra pas ni d'avoir une approche descriptive de ce qui se passe au Nigeria, au nord du Niger, ni une approche prescriptive pour aider l'État du Nigeria à régler le problème. Parce que ce n'est pas par la voie militaire qu'ils vont mettre fin à Boko Haram, on le voit bien, ça fait déjà depuis 2010, ça fait 13 ans que ça dure. Et ça va durer tant que le problème ne va pas être réglé à la racine. Vous aurez beau tuer tous les combattants de Boko Haram, l'unique moyen c'est de faire un génocide et de tuer tous les calories. C'est pas pensable. Donc à un certain moment, il faut penser à la question du système politique du Nigeria et de le réformer de telle manière à ce qu'il ne soit pas un monopole qui passe entre les mains de deux ethnies, musulmanes ou chrétiennes, mais qu'il soit plus inclusif des ethnies minoritaires, afin qu'elles soient plus représentées dans l'appareil politique. Et donc il faudra peut-être repenser même la démocratie, et de forger une démocratie qui partirait de la réalité du Nigeria. C'est-à-dire de permettre au Nigeria et à la population du Nigeria de repenser de manière souveraine quel est le système politique qui leur est le plus adéquat, et pas de subir une greffe étrangère qui est celle de la démocratie représentative occidentale, qui peut marcher chez un peuple éclaté sur une base individualiste où il n'y a plus d'appartenance collective, etc. Mais dans des régions et des territoires où il y a encore des appartenances collectives fortes, eh bien, il faut laisser ces territoires produire leur propre système politique qui serait le reflet de leur réalité culturelle, historique, etc. Et donc, tant qu'on est dans ce déni de souveraineté, et d'ailleurs l'Afrique commence à prendre conscience, les peuples africains, notamment la jeunesse africaine, commencent à prendre conscience de cette trappe et de ce piège dans lequel elle est piégée, et on est en train de voir un mouvement d'émancipation à tous les niveaux, pas uniquement politique ou militaire, de beaucoup de régions d'Afrique, vis-à-vis de l'hégémonie, pas uniquement militaire et politique ou économique française, mais même au niveau culturel et intellectuel. Et il y a différents mouvements, d'ailleurs, même quand on va au Mali, certes, c'est arrivé par un coup d'État, ce qui n'est jamais souhaitable, mais quand on voit les discours d'Assimi Keïta ou de plusieurs ministres maliens, Assimi Goïta, on voit bien qu'il y a des éléments de langage dans son discours qui renvoient à cette idée d'identité culturelle, d'enracinement culturel, de rapports civilisationnels et culturels qui devraient nous amener à repenser les fondements de l'État du Mali. Et donc, moi, je vois cela d'un très bon œil. Je vois ça qu'on a compris enfin, et j'inclus tous les pays africains dans le Maroc, que l'indépendance et la souveraineté ne peut pas être pleinement réalisée au niveau politique si au départ, elle n'est pas l'objet d'une reconquête intellectuelle et culturelle. Et que tant qu'on continue à nous penser nous-mêmes à travers les concepts des autres, eh ben on ne peut pas penser notre souveraineté de manière adéquate. Et comme on dit, si vous ne vous pensez pas vous-même, d'autres vont vous penser à votre place et vont vous dire voilà comment vous devez vous penser. Et donc la géopolitique permet de déchirer ces différents voiles et de comprendre que la lutte et les tensions géopolitiques ne se font pas uniquement au niveau de la politique extérieure, des guerres, de l'économie, etc. Mais il y a même une géopolitique des mentalités et des imaginaires. Et donc il y a des hégémonies et il y a des contre-hégémonies. Il y a des tentatives d'envahissement et des tentatives d'émancipation, autant au niveau intellectuel que culturel. Donc là, c'était une relativement brève introduction à la géopolitique qui réclamerait d'autres conférences pour entrer dans le détail de chacune des écoles. Mackinder, je l'ai survolé, pareil pour Spikeman, pareil, je n'ai pas eu le temps de parler de Ratzel et de l'école allemande, mais peut-être dans les questions-réponses, j'aurai la possibilité de creuser davantage. Je vous remercie.